Pour terminer l'émission, on est rejoint par Mathieu pour la chronique des apatrides anonymes. Donc je vais maintenant laisser présenter ses sujets.
Bonjour, Émilie.
Bonjour.
Merci. Je vais commencer avec la question des réfugiés syriens, dont on n'a pas parlé beaucoup dans les dernières semaines. Je vais vous en parler par rapport au Canada. C'est pas une nouvelle fraîche, mais comme c'est quelque chose qui traîne et qui se règle pas et qui est assez scandaleux, je voulais quand même donner quelques informations là-dessus. Bon, tout le monde sait qu'il y a une guerre atroce qui se passe actuellement en Syrie depuis quelques années, qu'il y a plus de 3 millions de réfugiés qui sont en dehors du pays, plus de 10 millions qui sont réfugiés dans leur propre pays, avec tout ce qui se passe au niveau de la guerre assez larvée, assez violente qu'il y a là-bas. Et évidemment, ben, comme à l'habitude, quand il y a des conflits, des appels aux pays occidentaux, aux pays riches, pour recevoir des gens, pour essayer de faire des mesures spéciales pour qu'il y ait plus de gens qui puissent quitter la guerre, quitter la misère. Et le Canada, bon, on en parle souvent ici, les apatrides anonymes, des politiques d'immigration au niveau des réfugiés du gouvernement fédéral, ça s'améliore pas avec les années. Et là, pour les réfugiés syriens, il y avait eu une promesse à la demande du Haut Commissariat aux réfugiés d'avoir, ce qui avait été promis par le Canada, c'est 1300 personnes qui pouvaient rentrer en 2014, ce qui n'est pas beaucoup de gens, on s'entend. On sait qu'il y a plus de 300 000 immigrants qui rentrent au Canada chaque année. Et donc, 1300, c'est un petit pourcentage. Et finalement, ce processus-là, qui est compliqué, qui est coûteux, qui est complexe, fait qu'il y a à peu près personne qui est rentré. On est rendu au mois de fin avril. Il y a à peu près personne qui est rentré depuis le début de l'année. Et ce qui est à souligner, c'est un peu administratif, mais ça vaut la peine d'en parler parce que ça montre un petit peu tout le virage que pris la politique au niveau de l'immigration au Canada, c'est que sur les 1300 donc personnes qui étaient attendues, 1200 doivent rentrer dans des parrainages privés. Donc c'est pas l'État qui s'occupe de ces gens-là, c'est pas l'État qui envoie des fonctionnaires pour évaluer leurs demandes et les faire arriver ici. On fait un peu de la sous-traitance vers des organismes communautaires, entre guillemets, mais on parle pas nécessairement d'organismes communautaires, on parle d'organismes religieux ou accrédités au niveau de la communauté, entre autres l'archevêché de Montréal. On essaie de trouver un peu le lien. Et il y en a seulement 200 qui vont être parrainés par l'État, donc pour eux, ça va être beaucoup plus rapide, parce qu'il faut savoir que pour les parrainages privés, il y a les groupes donc qui interviennent dans le décor et ils servent de relais aux familles qui veulent souvent faire des réunifications familiales, évidemment, et le processus prend 2 ans et demi dans le meilleur des cas, donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable quand on parle de situations d'urgence comme une guerre et des réfugiés un peu partout autour, dans les pays autour de la Syrie. Donc, il y a une centaine de parrains qui ont fait une demande au Québec en 2014 pour 220 individus et il y a seulement une famille qui est arrivée. Donc, on voit vraiment qu'il y a un problème important. Rapidement, la demande passe donc par les organes, est faite par les organismes, passe par le gouvernement du Québec, ensuite par le Bureau d'immigration Canada à Winnipeg. Et ensuite, elle est envoyée dans les pays voisins de la Syrie où les réfugiés sont, c'est-à-dire Liban, Jordanie, Égypte. Et là, ça va être traité localement par des fonctionnaires et par le pays en place. Donc, c'est vraiment extrêmement complexe et lourd comme processus. Peut-être dire que l'attente au Liban, une fois que la demande est arrivée, c'est de 21 mois supplémentaires, en Jordanie de 24 et en Égypte de 42 mois. Donc, on parle de quelque chose de kafkaïen complètement. Le gouvernement n'a pas vraiment répondu aux critiques, a juste dit qu'il ne ferait pas plus pour les Syriens en 2014 et que même les programmes de réunification spéciaux qu'il a fait pour d'autres pays comme Haïti, entre autres, et aussi pour les Philippines et le Liban il y a quelques années, il ne le ferait pas pour la Syrie. Donc, il y a vraiment un blocage à ce niveau-là. Et en plus des délais, c'est que ça coûte en moyenne 13 000 $ par personne pour venir ici, ce qui est quand même un montant assez impressionnant, qui est beaucoup plus cher que quand on est parrainé ou quand on fait une demande de réfugiés d'asile au Canada, de d'autres pays. Donc, on se rend compte au niveau plus politique que le gouvernement a annoncé des centaines de millions de dollars pour améliorer les conditions dans les camps de réfugiés en Jordanie, par exemple. Donc, on a l'air de donner l'impression qu'on veut plus maintenir les gens là-bas en camp de réfugiés que les faire venir ici pour leur donner une meilleure vie, disons. On peut résumer ça comme ça. Donc, puis l'argument du gouvernement du Canada, c'est que le conflit n'est pas terminé. Donc, on peut pas vraiment régler de situation. Donc, c'est drôle la réponse, parce que ça peut durer encore des années. Et pendant ce temps-là, il y a des gens aussi vulnérables, des personnes handicapées, des personnes âgées, des enfants, des gens malades qui ont besoin de venir. En plus, des gens qui sont pas malades, mais qui ont des conditions de vie atroces. Donc, on bloque vraiment là-dessus. Et peut-être en terminant ce sujet-là, peut-être dire que le HCR avait demandé qu'il y ait 30 000 places dans les pays occidentaux pour les personnes vulnérables, malades, handicapées, personnes âgées, et que la réponse n'a pas été là du tout. On est à moins de 10 000 places qui ont été 10 000 personnes qui ont pu avoir un processus qui a commencé. Donc, on est vraiment On laisse beaucoup les Syriens eux-mêmes, malgré que c'est supposément la guerre la plus atroce, la plus médiatisée, la plus préoccupante actuellement sur la planète. Mais finalement, on s'en occupe pas. Et peut-être souligner que le Canada n'a pas de programme spécial pour les Syriens, contrairement à d'autres pays. Fait qu'on se retrouve avec la politique d'immigration dont on a parlé beaucoup ici, qui a été réformée en 2012-2013, qui est beaucoup axée sur les immigrants investisseurs, les immigrants qui viennent travailler ici. Mais pour ce qui est des réfugiés, des personnes qui demandent asile, c'est toujours de plus en plus difficile. Et là, on fait de la sous-traitance vers des organismes au lieu de régler ça au niveau du gouvernement soi-même. Donc, c'est vraiment la situation au niveau des... en tout cas, récemment, la situation des réfugiés syriens, c'est vraiment ça... qui se passe. D'autres petits sujets un peu plus courts, ben, vous savez peut-être qu'il y a un projet de loi qui est en cours actuellement sur la citoyenneté, projet de loi C-24, qui réforme différentes choses, dont le fait, bon, le gros fait du gouvernement fédéral, c'est de dire que ça va accélérer les demandes de résidents qui veulent devenir citoyens. Donc, on met beaucoup plus de moyens là-dessus. On fait beaucoup de cérémonies, de rencontres. Par exemple, au cours des deux dernières semaines, dans la seule ville de Scarborough, qui est une petite ville, c'est une banlieue en Ontario, il y a eu 4500 personnes qui ont été assermentées citoyens, qui provenaient de plus de 140 pays. Il y a eu aussi, à Mississauga, une autre banlieue de Toronto, 2400 personnes de 125 pays. Donc, on accélère pour montrer que ça fonctionne, même si le projet de loi n'est pas adopté. Mais ce qu'on précise pas dans ces annonces-là au niveau des cérémonies, c'est que en même temps qu'on accélère les choses, on a aussi mis des nouveaux critères pour rendre ça plus difficile pour d'autres. C'est toujours un peu ça le problème. Donc, maintenant, il faut avoir habité de 4 à 6 ans, de 4 des 6 dernières années, avoir été à temps plein au Canada pour avoir la citoyenneté. Les frais ont été haussés, évidemment. Ça, c'est toujours l'argent qui est là. Et aussi, on autorise la révocation de la citoyenneté pour des gens qui ont été condamnés pour des actes plus ou moins reliés au terrorisme, la lutte armée. Puis bon, dans le contexte de la lutte antiterroriste, on sait qu'il y a souvent des dérives là-dessus. Donc, on essaie de restreindre aussi à des gens...
Oui, bah à ce sujet-là, vous justement, vous venez d'entendre une entrevue avec Jaber Khalibi, qui est clairement accusé de terrorisme par le gouvernement canadien.
Oui, pour ce qu'il aurait fait en Iran il y a très très longtemps, ouais. Mais la France, bon, l'avait accepté avant tout ça. Donc oui, c'est ça. Donc on essaie de cibler des individus en les tassant, puis en disant qu'on favorise la majorité, mais toujours à double tranchant, donc bon exemple, tout à fait. Donc voilà, fait que là, on est dans la propagande un peu de dire on donne la citoyenneté à plein de gens, on réduit les délais, on réduit les listes d'attente, mais finalement, on tasse d'autres personnes, on augmente les frais pour les suivants qui s'en viennent dans les prochaines années. Et en plus, peut-être dire aussi que dans les communiqués officiels, on dit que la cérémonie d'assermentation pour les nouveaux citoyens est un événement, ben là, j'ouvre les guillemets, là, un événement exceptionnel de la vie civique canadienne, l'une des rares occasions où nous prenons réellement le temps de réfléchir aux droits, aux responsabilités, aux privilèges, aux avantages qui accompagnent la citoyenneté canadienne. Et on termine en disant « La cérémonie de citoyenneté canadienne est une célébration émouvante où chacun réitère son engagement envers les valeurs et les traditions du Canada. » Donc, bon, on connaît aussi le nationalisme canadien des conservateurs. Donc, c'est toute cette espèce de game-là qui se joue actuellement, le patriotisme à la Harper. Un autre cas qui est assez particulier, puis sur lequel je voulais attirer l'attention des gens, peut-être les gens qui suivent les groupes de défense des droits des immigrants ont souvent entendu parler, mais Dipan Boudlakoti, qui est vraiment un cas exceptionnel et un cas vraiment renversant, c'est que cet homme-là est né à Ottawa, est né au Canada, d'origine indienne. Et là, le gouvernement canadien veut le déporter vers l'Inde, où il n'a jamais habité. Il est né ici, il n'est jamais allé de sa vie. Il n'a pas de passeport indien, il n'a pas de famille là-bas. Elle est ici, sa famille. Et ils veulent, parce qu'il y a eu des petits démêlés avec la justice, ils veulent le déporter vers l'Inde. L'Inde n'en veut pas, évidemment, parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme citoyen indien, ce qui lui permet de rester. Mais techniquement, il n'a pas de passeport, il n'a pas de papier, il n'a pas accès aux soins de santé. Donc, il est dans une espèce de no man's land administratif, un autre cas kafkaïen. Et donc, puis il peut être déporté n'importe quand si l'Inde décide de dire « OK, c'est correct, s'il y a une négociation, par exemple un échange de bons procédés entre les deux pays ». Donc là, il fait une grosse démarche au niveau de la Cour fédérale. Il conteste, bon, la décision du Canada en vertu de la Charte, qui viole plusieurs chapitres de la Charte des droits et libertés canadiennes. Puis, il veut créer un précédent pour que le gouvernement ne puisse plus déporter des gens qui sont nés au Canada. Je viens de parler de révocation de citoyenneté, donc on voit qu'on peut, parce que lui, il l'avait aussi la citoyenneté, donc on peut aller dans des cas comme ça. On peut parler aussi de la double peine, les gens qui font leur première peine ici au niveau criminel, ensuite sont déportés, perdent leurs droits. Donc, lui essaie de faire une lutte importante et il fait une levée de fonds parce qu'il évalue à 20 000 $ le coût de ses démarches en cour fédérale. Ça pourra aller en cour suprême après, donc c'est assez imposant. Donc, d'ici le 1er juin, il va ramasser 20 000 $ Donc, je vous conseille, si ça vous intéresse d'appuyer cette cause, d'aller sur Justice for Dipan. Dipan, c'est D-E-E-P-A-N. .org, donc justiceforthepen.org, c'est le groupe qui le soutient dans ses démarches. Et il y a aussi un site aussi pour aller faire des dons, un lien pour aller faire des dons, si ça vous intéresse. Une lutte dont les médias parlent pas beaucoup, les gros médias, les médias officiels parlent pas beaucoup, les médias de masse, pardon. Donc, voilà, donc ça vous intéresse, Dipan Boudaclotti. Et en terminant, petite nouvelle de l'international, en France, on en parle régulièrement aux apatrides, avec toute la mouvance d'extrême droite qu'il y a là-bas. On a découvert, peut-être qu'en France, les gens connaissaient ça, mais des milices anti-racailles qui ont apparu dans les derniers mois dans les grandes villes françaises. Un cas à Lille, un cas à Lyon récemment. Donc, des membres de Génération identitaire Flandre à Lille, qui sont, dans le fond, la branche jeunesse du mouvement Bloc identitaire, qui est plus national en France. Donc, ils regrouperaient 300 militants actifs dans la région de Lille. On a décidé de faire des milices anti-racailles dans le métro de Lille, donc de sécuriser. Ils parlent de patrouilles de sécurisation, en disant que la police fait pas son travail, que les jeunes immigrants font plein de criminalité, attaquent les gens. Donc, on fait vraiment, des liens assez faciles et assez reconnus qu'on voit souvent entre criminalité et immigration. Donc, voilà. Ils ont décidé à Lille de faire une opération. Évidemment, il y a des gens qui contestent ça. Il y a des gens qui les ont opposés aussi, qui les confrontent. Mais c'est sûr que c'est toujours le même discours. Présence dissuasive pour les bandes de racailles. Donc, prise de conscience pour les citoyens ordinaires. Leur slogan, c'est « Ils ont leur bande, tu as ton clan. Face à la racaille, tu n'es plus seul. » Donc, c'est un peu ça, on voit assez facilement. Donc, à Lille, il y a une page au niveau Internet qui s'appelle « Lille, pas de part dans nos transports », qui conteste la présence de ces générations identitaires, donc de ces bandes de jeunes d'extrême droite. Donc, et à Lyon, ça c'était au mois de mars. À Lyon, au mois d'avril, il y a eu la même chose. Là, la police est intervenue parce que les gens ont vraiment confronté plus solidement les militants d'extrême droite. Ils ont été chassés, mais c'est sûr que ça revient régulièrement. Et on rappelle que dans le métro de Lyon, comme de Lille, les taux de criminalité sont parmi les plus bas dans le monde. Donc, on essaie de voir la justification même technique de ça. On sait que c'est de la propagande pour associer immigration et criminalité encore. Oui. Donc, à surveiller ces opérations anti-racailles si vous passez par la France. Ils sont très bien identifiés, sont en jaune. Je ne sais pas s'ils vont continuer à le faire après les mésaventures qu'ils ont eues, mais disons que c'est dans la foulée de tout ce qui se passe en France depuis quelques années, oui. Où des identitaires et d'extrême droite qui est de retour.
Oui, ben tout ça se fait aussi dans le contexte d'une nouvelle poussée du parti d'extrême droite, le Front National. Exactement. Qui a fait des scores encore records aux élections municipales qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps.
Oui, mais je voudrais peut-être rajouter dans le cadre aussi toute la lutte contre le mariage gay qui a ranimé plein de vieux démons en France. Donc, donc voilà pour ma chronique, Amélie.
Ben, merci beaucoup, Mathieu, pour
plaisir.
Cette chronique très pertinente.
Dans deux semaines, Simon sera là.
OK, parfait.
Merci.
Merci.